c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de l'urgence de repenser notre modèle économique mondial dans C'est pas du vent. Et oui, rien que ça. Et en plus, c'est urgent, comme le démontre notre invité, Roan Martinez-Allier, dans son livre « L'écologisme des pauvres » publié aux éditions Les Petits Matins. Marc Dufumier, vous êtes agronome, enseignant-chercheur français à la chaire d'agriculture comparée de développement agricole à Agro-ParisTech. Vous avez signé la préface de ce livre. On le disait dans la première partie de l'émission, les plus pauvres peuvent aussi être écologiste, mais c'est une notion qu'on a du mal à comprendre, par exemple en Occident, où on a toujours l'impression, même ici à RFI, hein, je l'entends quand on parle de cette émission, que en fait c'est un luxe de parler environnement. Il faut d'abord penser accès à l'éducation, à la santé. L'environnement, finalement, c'est quand on a le temps.
Eh bien écoutez, moi, agronome, ayant travaillé un petit peu dans les pays du Sud, hein, du tiers-monde, j'ai beaucoup appris des paysanneries pauvres sur la façon précisément de gérer leur écosystème et d'éviter un certain nombre de dégâts qui existent dans nos agricultures industrielles. L'agroécologie pratiquée par des paysans du Sénégal, quand ils essayent de cultiver du mil et du sorgho sous des parcs de Federbia albida, ils parviennent à faire un usage intensif des rayons du soleil pour fabriquer de l'énergie alimentaire, un usage intensif de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines. Ils fertilisent leur sol avec cet azote de l'air, ce qui évite l'emploi d'engrais azotés de synthèse qui exige pour sa fabrication des gaz naturels russes ou du pétrole vénézuélien. Donc ils ont des formes d'agriculture qui font un usage intensif des ressources naturelles renouvelables, l'énergie solaire, le carbone du gaz carbonique, l'azote de l'air, et un usage très économe des énergies fossiles et quasiment aucun agrotoxique. Eh ben, on pourrait éventuellement, d'ailleurs, dans les pays riches, parfois s'inspirer de savoir-faire qui viennent de ces paysanneries pauvres. Et là-bas, à l'intérieur même de leur société, il est possible encore de perfectionner dans leur dynamique d'utilisation intensive des ressources naturelles renouvelables et très économes de celles qui sont au contraire rares. Prenez par exemple le phosphore, les phosphates. Il y a des experts qui nous annoncent que d'ici 3-4 décennies, il va arriver aux mines de phosphate ce qui advient pour le pétrole, à savoir que le coût d'exploration et d'exploitation va devenir de plus en plus coûteux. Eh bien, vous avez des techniques modernes, biologiques, qui permettent, soit avec l'agroforesterie, en allant chercher les éléments en profondeur, les arbres viennent le mettre dans leurs feuilles, et quand la feuille est morte, ça fertilise la couche arable, soit l'utilisation de champignons qu'on a qualifiés de mycorhiziens, qui sont capables de débusquer du phosphore entre coincés entre les feuillets d'argile. Mais écoutez, tout ça, on peut s'en inspirer, y compris dans nos agricultures de pays riches, où il est impératif chez nous, dans les pays riches, de corriger la copie. Donc là-bas, ça peut se perfectionner. Chez nous, ça doit impérativement se corriger.
Alors, le problème, Roan Martinez-Allier, c'est que même dans les pays en voie de développement, on le voit bien, par exemple, cette année, c'est l'année internationale de l'agriculture familiale, ce dont parlait Marc Dufumier, c'est très important. C'est ce que font les agriculteurs familiaux, et dans leur pays, ils ne sont pas reconnus. On parle plutôt de la grande agriculture intensive, ça fait rêver, on se dit qu'on va plus s'enrichir. Donc, on voit bien que le modèle est quand même déviant aujourd'hui.
Non, je pense qu'il y a une réaction partout dans le monde après beaucoup de décennies de penser que la modernisation c'était l'agriculture industrielle, de revenir, je dirais pas en arrière, mais c'est en arrière, mais aussi en avant avec des techniques un peu nouvelles. Il y a par exemple la Via Campesina, que c'est comme une internationale paysanne. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un international des groupes paysans ou des agriculteurs sans terre comme au Brésil, et ils sont devenus de plus en plus écologistes. Ils sont contre les semences génétiquement modifiées, ils sont pour la, ce qu'ils appellent la souveraineté alimentaire, qu'on a posé ça sur la table en Afrique, dans des réunions qu'on a eues. Alors, c'est du mouvement du Sud, il y a aussi des gens en Europe, mais surtout du Sud, qui dit qu'il faut avoir une agriculture comme ça. Et si on parle de phosphore, on doit rappeler aussi que c'est le Maroc, un des exportateurs les plus importants, des millions de tonnes par an, et ça a à voir avec les conflits avec le Sahara occidental. Alors, c'est un autre exemple de pillage. Depuis l'âge de tiers-monde, on disait avant, il y a des coups politiques et militaires qu'on a eu pour les phosphates du Maroc, n'est-ce pas? Et ils sont des ressources qui ne sont pas renouvelables. On peut pas avoir une expansion économique avec des ressources qui sont pas renouvelables. C'est la définition du terme. C'est, alors il n'y a pas pour tout le monde, et on doit, c'est que vous disiez avant, avoir une répartition meilleure de ces ressources.
Alors le problème, c'est que les victimes du modèle de développement prédateur que les pays industrialisés ont imposé au monde sont sans voix finalement, sont les générations futures, la biodiversité ou les plus pauvres, comme par exemple les Indiens d'Amazonie. L'un d'entre eux, Akjabor Kayapo, est venu il y a quelques mois à Paris pour témoigner des difficultés de sa vie quotidienne. Igor Strauss l'avait alors rencontré.
Les guerres sont finies. On ne tue plus, c'est vrai, avec des flèches, des fusils, des massues, comme on l'a fait pendant longtemps. Donc les guerres d'autrefois sont finies, certes, mais la lutte continue. Et cette fois, nous continuons à être des guerriers, mais cette fois, nous nous battons avec des stylos et des discours pour protéger nos droits.
Bon. Estou brigando pelo direito de todos.
Je lutte pour tous les Indiens, pas seulement les Kayapo. Et au Brésil, les problèmes principaux qu'on rencontre, ce serait la santé, l'éducation, la reconnaissance de nos droits territoriaux et puis la sécurité, puisque nos terres, en tout cas dans le sud du Pará, mais aussi dans le reste du Brésil, sont souvent envahies par des chercheurs d'or, des exploitants de bois, etc. Donc c'est sur ces fronts, principalement, que je travaille. Et il faut reconnaître qu'en ce moment, au Brésil, les choses ne vont pas forcément très bien pour nous, les Indiens. Vous savez que les Indiens sont reconnus comme des protecteurs de l'environnement, de la forêt. On parle beaucoup du carbone et du rôle de l'Amazonie dans ce contexte-là en particulier. Donc oui, nous luttons, nous travaillons là-dessus. Les terres des Kayapo sont, justement grâce à nos luttes, en fait, elles sont reconnues, délimitées par le gouvernement brésilien. Mais il y a encore pas mal de peuples, de groupes qui n'ont pas leur territoire qui sont reconnus au Brésil. Voilà, c'est quelques exemples. On pourrait en trouver d'autres.
Comment faire pour concilier les deux, développement économique d'une part et protection de la forêt des Indiens d'autre part?
Par exemple, que nous... Quantos tempo que nós estamos preservando o meio ambiente? É muito tempo que nós estamos preservando o meio ambiente.
Écoutez, nous, on fait ça depuis très longtemps. Nous, on se développe et on conserve. On a fait ça depuis toujours, donc il y a certainement des chemins. Mais je pense qu'il faut voir les choses à plusieurs échelles. Probablement qu'il faut changer nos manières de penser, enfin vos manières, excusez-moi, de penser le développement et la croissance économique. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, donc il suffit de se mettre au travail. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être réfléchi, travaillé ensemble, tous ensemble au niveau du monde entier, au niveau international. Nous, qui depuis des générations avons entretenu cette forêt, eh ben, je considère qu'on devrait être payé pour cette action qui, en fait, intéresse l'humanité tout entière. Et ça, c'est à l'échelle globale, celle de votre question. Mais moi aussi, je voudrais vous dire qu'à notre niveau à nous aussi, on cherche des petites solutions avec des projets de développement durable. On a pour cela l'appui d'ONG ou d'associations amérindiennes. On a fait plusieurs petits projets, par exemple de noix du Brésil. On a obtenu la certification il n'y a pas très longtemps de cette noix du Pará. On a aussi un petit projet pour de la plantation et de la vente de cacao. Et puis un autre projet qui commence sur le miel et les abeilles. Voilà, ce sont des petites expériences menées à l'échelle de notre village ou de notre terre indigène. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut imaginer d'un chemin qui soit à la fois pour le développement et la conservation de la forêt.
Juan Martinez Allière, votre livre, L'écologisme des pauvres, a un succès phénoménal au Brésil. Ce n'est peut-être pas un hasard parce que c'est un pays où il y a beaucoup de conflits.
Oui, j'écoutais... C'est Kayapo, et c'est vrai que les Kayapo, ils ont fait beaucoup de choses, et que de la résistance, ils sortent des alternatives. mais dans les parades, dans tous les nord du Brésil, il y a des morts et des morts pour des conflits de terres, qui en même temps sont des conflits sur la déforestation, n'est-ce pas?
Ils se battent aussi contre les grands barrages.
Il y a aussi. Et il y a une ONG qui s'appelle Global Witness, qui a publié il y a 2 ans auparavant, je ne sais pas si vous avez parlé de ça dans cette émission, mais ils font comme une statistique des gens qui meurent dans le monde, aux Philippines, Pérou, Brésil, surtout, Colombie, Mexique, en Afrique aussi, en défendant la terre et des ressources naturelles, et qui sont cet écologiste qui savent pas qu'ils sont des écologistes. Alors, c'est bien de payer pour la conservation de la forêt, mais lui-même, il a dit, il y a un problème de reconnaissance des droits territoriaux des Andes. C'est un langage de valorisation très différent. Si on dit c'est notre territoire, c'est comme dit, c'est pas le marché qui peut dire. C'est un droit différent. On ne peut pas acheter les droits, n'est-ce pas? Si on a le droit à la vie, on peut acheter le droit à la vie. On ne peut pas acheter les droits des enfants à aller à l'école, par exemple. Alors, le langage des droits des Indiens au Brésil, ou des droits à l'existence, des droits humains, c'est un langage plus important que le langage des marchés. Et je pense que mettre la nature dans les marchés, ça, quelquefois, c'est une bonne idée. Par exemple, si on a une lutte entre la conservation des mangroves et la culture des crevettes, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, on met un prix aux mangroves, et peut-être de cette façon, on peut défendre les mangroves contre l'industrie. Mais ça dépend du prix, et ça peut être contre-produisant, parce que change la logique d'une logique des droits et des valeurs écologiques à une logique des marchés.
Mais la difficulté, Marc Dufumier, c'est que on parle de la voix des sans-voix, finalement. C'est-à-dire que cet Indien Kayapo dont on entendait parler, en effet, on peut écouter ses droits, mais qui les écoute?
Mais il parle un peu les langues qu'il a apprises, n'est-ce pas, dans les réunions internationales, qu'on va payer pour les services de l'environnement, la conservation des gaz carbonique dans les arbres, tout ça. Et en même temps, il parle des droits territoriaux.
Oui, lui, il a changé son discours, il a su le faire évoluer.
Qui sont pas reconnus partout. Mmh. Ils sont pas reconnus. On tue des Indiens tout le temps au Brésil.
Oui, c'est vrai qu'y compris ces massacres sont trop souvent ignorés, hein, on en parle beaucoup trop peu, alors qu'il y a dans ces forêts, dans ces régions un peu éloignées, des gens qui démontrent par l'action qu'il y a les moyens de partir de cette forêt plus ou moins naturelle, de l'aménager, de favoriser la croissance et le développement d'espèces les plus utiles, parfois en voie de disparition, c'est des molécules médicinales, c'est des résines et autres, et ce faisant, ils protègent la forêt et rendent un service d'intérêt général à l'humanité tout entière. Je pense que les gens méritent d'être bien rémunérés pour la qualité de leurs produits. Alors c'est très artisanal, donc c'est exigeant au travail, donc il faut les rémunérer pour ce faire, et effectivement, le service d'intérêt général à la communauté internationale mérite d'être payé s'il nous préserve d'un réchauffement climatique toujours croissant, quoi.
C'est pas du vent sur RFI. Thank you.
écoutez C'est pas du vent sur RFI en compagnie de l'économiste Juan Martinez-Alière et de l'agronome Marc Dufumier. Alors l'une des solutions que vous abordez dans votre livre, Juan Martinez-Alière, c'est la notion de dette écologique, une notion que nous explique Renaud Duterme, agrégé en sciences du développement et co-auteur de La dette cachée de l'économie, le scandale planétaire aux éditions Les Liens qui libèrent.
L'essentiel du développement économique des pays du Nord, donc des pays industrialisés, Europe, Amérique du Nord, Japon et Océanie essentiellement, c'est fait sur base de ponctions toujours plus importantes des ressources naturelles des pays du Sud. Et donc, partant de ce principe-là, on dit donc que le Nord aurait une dette écologique. Ce concept Nord-Sud, à notre sens, est quand même important, mais malgré tout, il a ses limites. Et évidemment qu'on ne peut pas opposer un Nord homogène à un Sud homogène. Au sein de chaque société, vous avez des classes sociales différentes qui, dans ce qui nous concerne, ont des empreintes écologiques différentes. Et on ne peut pas opposer à l'extrême un cycliste écologiste du Nord avec un président sud-africain ou un homme d'affaires sud-africain qui passe sa vie dans des avions privés, etc. Donc clairement, il y a vraiment une notion de classe. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'au sein de chaque groupe, au nord comme au sud, vous avez des populations, la majorité selon nous, qui subit les conséquences donc des dégradations écologiques. Et on peut penser notamment aux victimes des catastrophes naturelles, notamment à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis ou quoi. Donc même dans les sociétés les plus riches, vous avez une classe qui clairement subit les frasques de la crise écologique.
Quand on parle des pays du Nord, clairement, vous parlez des pays de la triade, c'est ça ?
Voilà, on met la triade à laquelle on peut peut-être ajouter l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Alors la triade, il faut expliquer, c'est Europe, États-Unis,
la triade,
Japon.
C'est Europe, États-Unis, Canada et le Japon. Voilà, donc les pays dits industrialisés, même si aussi ces concepts sont assez flous. Ça permet, disons, donc d'avoir une idée des différences de développement, mais c'est des concepts assez théoriques et qui des fois ne reflètent pas toujours la réalité.
Peut-on la quantifier, cette dette écologique ? C'est assez difficile, ça ?
Alors c'est difficile, oui, c'est assez difficile maintenant, donc c'est pour ça que nous, et je fais partie du CADTM, qui est le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, et c'est ça ce qui nous a fait nous intéresser à ce concept, mais c'est que la dette écologique, c'est clairement un argument, et ça c'est une réponse justement aux partisans des chiffres, c'est un argument supplémentaire à l'annulation totale et inconditionnelle de la dette des pays du Sud. Pourquoi ? Parce qu'on estime que, dans notre livre, on remonte quasiment à Christophe Colomb, donc au début de la mondialisation, si on peut dire. Et donc, à partir depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, on estime que les ponctions et donc le pillage des pays du Sud vaut largement la dette financière que les pays du Sud remboursent toujours actuellement aux grandes puissances.
Renaud Duterme a interrogé par Igor Strauss, Juan Martinez-Alière. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ?
Oui, je dis totalement d'accord. Il a cet aspect des ponctions de ressources, mais aussi il y a la dette climatique, n'est-ce pas ? Parce qu'on utilise, nous, la riche du monde, nous utilisons l'atmosphère et la nouvelle végétation et les océans. Les océans sont en train de s'acidifier, n'est-ce pas ? D'une façon unilatérale, depuis des cent ans, d'une façon qui s'est pas proportionnée à la population, n'est-ce pas? Par exemple, aux États-Unis, par personne, les émissions de gaz carbonique sont de 20 tonnes par personne année. À l'Inde, c'est, n'arrive pas à une tonne et demie de gaz carbonique.
20 fois moins.
Contre Alors, c'est une différence historique, et maintenant on réduit ça petit à petit parce que l'Inde est en train de croître économiquement. Mais toute la dette accumulée historique, il faudrait la payer. Mais je connais bien les thèmes parce que les thèmes, c'est année en Amérique du Sud, au Chili, à Équateur. On a commencé à discuter ça au temps de la première conférence de Rio.
Donc ça date de 1992.
Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter l'accumulation de la dette écologique. Il est en question de si on doit payer ça, et je suis d'accord que le calcul économique, c'est pas très facile à faire, mais plus important que payer la dette, c'est de ne pas augmenter la dette écologique. Et pour ça, du point de vue des changements climatiques, il faudrait très rapidement diminuer notre émission. Il faudrait aussi de payer les matières premières qu'on importe un peu plus, parce qu'il y a ce commerce juste, n'est-ce pas, que c'est intéressant, on peut acheter les cafés, les normes de commerce, au fair trade en anglais.
Le commerce équitable.
Ça veut dire qu'il y a, on peut pas acheter les commerces juste pour l'essence pour la voiture ou les cuivres, non? La plupart des matières sont des commerces injustes, n'est-ce pas? On connaît ça.
Alors justement, dans votre livre, vous parlez beaucoup des mines. Hein. Vous parlez notamment de Rio Tinto, qui est cette multinationale anglo-australienne qui a beaucoup fait d'exploitation de cuivre dans le monde entier. Et parce qu'on parle là de la dette écologique des États, mais les entreprises aussi ont des dettes écologiques. Mais ces dettes-là, en fait, elles sont inestimables et elles ne seront jamais payées.
Rio Tinto, les noms de Rio Tinto viennent de l'Espagne, de l'Andalousie, parce qu'ils ont commencé là, l'exploitation des cuivres. Ils ont commencé déjà avec des émissions de soufre à l'époque.
Les gens, dioxyde de soufre.
Oui, les gens ont protesté. Il y a une tuerie, parce que c'était un système espagnol de mettre la paix. C'était l'armée venue. C'était en 1888, en février, le 4 de février, je rappelle. C'est comme un jour de l'écologisme populaire, on pourrait dire. Mais aussi, il y a Total, par exemple, en Birmanie, ou ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie, que c'est un territoire français, n'est-ce pas?
Et puis, comme vous le disiez, Shell, dans le delta du Niger.
Avec nickel, l'extraction de nickel. Alors, il y a partout des exemples, oui. Et maintenant, il y a des entreprises chinoises qui arrivent partout. Mais en Chine, je sais pas vraiment comme ça marche et comme ça peut marcher s'il y aurait des ONGs en Chine qui peuvent vigiler en paix, s'il peut dire quelque chose, ce qu'ils font.
Ah ben le plus gros bureau de l'ONG Greenpeace au monde est en Chine. Hein. Après, ils ont un petit peu du mal à s'exprimer. Marc Dufumier, c'est vrai que on parle de cette dette écologique en disant que ça pourrait, par exemple, permettre d'annuler la dette économique des pays du tiers-monde. Mais il y a donc aussi la dette des entreprises, on vient de l'évoquer. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que cette tendance qui monte, qui est la financiarisation de la nature, le rapport de l'économiste Pavan Sukhdev qui dit qu'un hectare de mangrove, ça coûte tant, un hectare de forêt tropicale, ça coûte tant, soit une solution pour justement essayer de chiffrer un petit peu les choses et remettre un peu de justice économique dans tout cela?
Alors, il nous faut être très prudents en économie de marché sur ces questions-là. L'exemple est quand même souvent les crédits carbone. Vous savez, le marché des crédits carbone qui reste en définitive un marché des droits à polluer. Donc, on se donne un peu bonne conscience, ça permet la fixation de carbone là-bas dans les pays du Sud, ce qui nous permet, nous, de poursuivre les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire à continuer cette dette climatique dont on parlait
là. C'est un mécanisme pour expliquer rapidement. Par exemple, on met sous cloche une partie de la forêt du bassin du Congo, c'est payé par une entreprise française, par exemple, qui, elle, émet des gaz à effet de serre, et elle compense ses émissions par cette mise sous cloche de cette partie de forêt.
Oui, ça peut être ça, comme ça peut être des gens qui polluent ici, qui disent, la contrepartie, c'est je finance un projet de reforestation là-bas, avec d'ailleurs, ça vous a peut-être déjà été raconté ici, mais les effets de fuite, c'est-à-dire qu'effectivement la reforestation dans un endroit, on achète les terrains à quelqu'un qui va aller déplacer ses pâturages vers la forêt amazonienne et les boisse tout autant, et ça on l'oublie dans la comptabilité. Donc je suis de la plus extrême prudence sur justement l'utilisation du marché pour réguler ces questions-là. Non, je pense qu'il est important de taxer ce qui effectivement est dommageable et très émetteur de gaz à effet de serre. Nous, il nous faut corriger, savoir notre agriculture qui est très émettrice de gaz à effet de serre en France. Et c'est ça qui permettra effectivement aux pays du Sud, de ne pas être inondés de nos surproduits à bas prix que nous exportons là-bas, et de pouvoir par eux-mêmes développer des formes d'agroécologie qui peuvent jouer un double rôle, s'adapter au réchauffement climatique, parce que l'agroécologie, les systèmes, culture associée, association étroite entre agriculture et élevage permettent aux paysans d'avoir des systèmes de production plus résilients, de s'adapter donc au climat plus en plus aléatoire, et aussi de réduire par là-bas des émissions de gaz à effet de serre et de fixer du carbone dans la biomasse, dans l'humus des sols, c'est favorable à l'agriculture, c'est favorable à l'intérêt général. C'est vrai que ça demande à être financé. Bon, une taxe carbone ici qui permettrait de financer tous ces systèmes de production vertueux là-bas, par contre, je serais vraiment pour.
Juan Martínez Aguirre, à la fin de votre livre, vous expliquez que de toute façon, pays riche ou pays pauvre, on n'a pas le choix. Il faut aller vers cette transition écologique parce que, déjà, les économies des pays riches ne vont pas bien et celles des pays pauvres en pâtissent déjà, mais vont continuer à en pâtir d'autant plus que la diaspora des pays riches ne va plus rapporter l'argent qu'elle rapportait jusque-là si ça continue comme ça.
C'est une idée que ça monte dans le monde de mettre un prix à la nature. Et je pense que, moi-même, quelquefois, je pense, oui, c'est un peu mieux. Mais en conclusion, je pense que non, que la nature, on doit défendre la nature des valeurs écologiques et aussi pour la subsistance, n'est-ce pas? C'est un peu comme on discutait si le travail domestique non rémunéré des femmes ou des hommes, et on ne peut pas vivre sans ça, n'est-ce pas? Si on devrait payer un salaire à grand-mère qui s'occupe des petits-enfants, n'est-ce pas? C'est un peu ridicule. Elle fait ça pour des obligations sociales, parce qu'elle aime le faire. Alors, on ne peut pas mettre tout sur les marchés. Et les marchés, quelquefois, c'est contre-productif. Oui.
Merci beaucoup. Merci, Juan Martinez-Alière, d'être passé dans C'est pas du vent. Merci, Marc Dufumier. Je rappelle le titre de votre livre, L'écologisme des pauvres. C'est publié aux éditions Les Petits Matins. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Si vous voulez réagir, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.